un peu sur le vif de toutes les conversations que j'ai pu avoir sur la question. Et puis surtout, en ce moment, il y a plein de programmations, de plein de tous les collectifs. Enfin, ça explose. Quoi.
Ah oui, c'est vraiment assez intéressant. Parce qu'il y a 5-6 ans, le 8 mars, excusez-moi, mais c'était fini. Enfin, non. Il y avait un petit truc ici, peut-être, par rapport au bouillonnement qu'il y a eu, jusqu'en 81-82. À partir de là aussi, ça a commencé à baisser. Les initiatives, quoi. Il y en avait, bien sûr, mais toujours un petit peu comme ça. Puis ça s'était beaucoup institutionnalisé, du style, je sais pas, une déclaration d'un ministre. Mais, et là, depuis déjà 3-4 ans, je dirais, mais là, cette année, c'est... J'en vois arriver de toutes les villes aussi, quoi. Pas seulement Paris, la région parisienne. Il y a des choses à Bruxelles, il y a le lancement de la grève des femmes en Espagne.
Bienvenue sur Fun Thugs, l'émission qui suscite et sidère des solitaires aux Inuits. Fun Thugs, c'est un vendredi par mois pour les psychopathes du son, les maniaques du dessin, les sabreurs de frontières, pour ceux qui dépassent, expérimentent sans regarder en arrière. À partir de 22h30, pour les fous, les filets qui laissent passer la lumière, pour ceux qui regardent la route des filets sans rien faire, on discute en décibels. On s'oppose en syllabes, écoute Fun Thugs, fais-le pour tes synapses, sur 93.9, mec, c'est de la frappe.
Bonjour, vous êtes sur Fun Thugs, on a le grand plaisir de vous rencontrer, Françoise Vergès.
Bonjour.
Alors, on a, bon gré mal gré, on est le 8 mars.
Oui.
Et on observait en coulisses qu'il y avait une floraison des mouvements, des manifestations de femmes. Vous qui voyagez énormément dans le cadre de vos recherches et de vos interventions, qu'est-ce que vous noteriez comme élément marquant pour faire un petit peu, pour discerner un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui?
Je dirais ce qui est frappant aujourd'hui, enfin depuis quelques années, c'est les mouvements massifs qu'on voit apparaître de femmes en Argentine, au Brésil, en Inde, au Mexique, partout en Afrique du Sud, ou qui n'étaient pas nécessairement des endroits qu'on associait justement, malheureusement, parce qu'il y a eu toujours des mouvements dans ces pays, mais où on voit, je ne sais pas, quand on voit 1 million de femmes à Buenos Aires ou à Rio de Janeiro, ou qu'il y a 3 à 5 millions de femmes dans le Kerala qui se mobilisent, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense qu'il y a de nouveau un renouveau, mais au niveau global, qui se pose à la fois à l'intersection entre la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi le droit au travail, contre le néolibéralisme, contre le racisme en Brésil, par exemple, ou contre ce qui est perçu comme un fascisme qui revient. Et en Europe même aussi, je dirais notamment en France, puisque nous y sommes. Parce que l'an dernier, il y avait une grande manifestation en Madrid, en Espagne. Mais en France, c'est vrai que c'est depuis 3-4 ans qu'on voit de nouveau cette multitude. Enfin, c'est partout dans des tas de petites villes et à Paris, dans la région parisienne, des manifestations, des propositions de débats, d'expositions, de rencontres. Je pense que de nouveau, il y a des féminismes qui se remettent, qui entrent sur la scène.
Mais on va en parler au fur et à mesure de notre rencontre. Mais cette idée du global, est-ce qu'elle ne risque pas de voiler aussi les singularités et les disparités des mouvements qui ne portent pas les mêmes...
Mais faire attention globale, c'est de voir aussi à quel point justement des femmes ont repris les luttes de femmes, des femmes à partir du fait d'être femmes, ou d'être queer, ou d'être, enfin, en dehors des normes genrées de la société. C'est ça qui est frappant. Ensuite, bien sûr qu'il y a des spécificités, mais ces spécificités, en même temps, moi, ce que je trouve intéressant qui nous arrive de ce qu'on appelle le Sud global, c'est le fait que ces luttes de femmes ne se focalisent pas simplement sur l'égalité de genre, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'égalité de genre, c'est-à-dire simplement avoir l'égalité avec les hommes, mais qu'elles posent des questions autant sur l'environnement, la violence policière, ce qu'on a vu avec Black Lives Matter aux États-Unis, sur la dépossession, le fait de la déforestation. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est global. Et puis après, localement, évidemment, il y a des spécificités toujours.
Donc là, vous venez de sortir aux éditions La Fabrique un nouveau livre le 15 février dernier, Le féminisme décolonial. Est-ce que finalement, c'est aussi ça met en valeur le fait que ces femmes ne prennent aussi les devants en politique, non plus pour parler simplement de leurs conditions, mais d'un État plus global dont elles dépendraient, avec une conscience plus générale des rouages qui lient l'organisation d'une société jusqu'à leur acceptation quotidienne, on va dire.
Oui, je dirais oui. En même temps, il ne faut pas oublier que les femmes qui avaient participé au mouvement de libération nationale ou aux guerres au Vietnam posaient déjà ces questions, c'est-à-dire posaient des questions à la fois de libérer le pays, mais aussi de libérer les femmes dans ce pays. Donc, mais là, ce que vous dites est extrêmement important, parce que justement, on s'éloigne d'un féminisme, mais je ne dis pas du féminisme, mais d'un féminisme européen, enfin du Nord, qui se focaliser sur la question de la condition des femmes dans une relation, dans une confrontation avec la domination masculine, et qui là, au contraire, regarde tous les éléments qui contribuent à l'oppression des femmes, et que ce n'est pas simplement, exclusivement la domination masculine. Ça, c'est le plus grand apport, on pourrait dire, qui s'affirme partout. Et là, et même donc en France, ce n'est pas simplement dans le Sud, mais en France aussi. Le fait qu'on ne peut pas simplement parler que de domination masculine pour expliquer l'oppression des femmes ou pour la combattre.
Une grande partie de la pensée que vous développez, en tout cas, est historicisée, donc ça nous fait revenir très loin en arrière. Et ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Le temps politique est un peu étrange, parce qu'il est parfois compressé, décompressé, des retours en arrière, des retours en avant. Comment vous vous repérez, vous, dans ces navigations de... Oui, ces valeurs qui apparaissent, disparaissent, sont remises en avant?
Oui, c'est vraiment une question importante, parce qu'il faut à la fois... regardez ce qui se passe sur le temps long, pardon, ce qui s'est passé sur le temps long, ce qui demeure et ce qu'on pense avoir, qui aurait disparu, mais qui revient par la fenêtre ou qui reste là en souterrain puis qui ressort. Et aussi des conditions nouvelles qui appellent à des choses nouvelles, des formes nouvelles de lutte ou de communication ou de présentation. On le voit par exemple avec les nouvelles technologies, il y a des choses qui ne se faisaient pas même il y a 20 ans autour des luttes de femmes. Et il faut constamment dégager et passer son temps à tirer plusieurs fils. Parce que si on ne tire qu'un fil, on perd quelque chose, des éléments qui permettraient même de comprendre le présent. C'est-à-dire à quel point le passé est toujours du présent. Certains éléments montrent que le passé n'est pas du tout du passé. Que justement, il faut penser les temporalités autrement. Pas simplement, tiens, ça s'est terminé là, on est passé à autre chose, on n'en parle plus. Je veux dire, la libéralisation de l'avortement ne met pas la fin à la question de la question de la maternité ou de la question de la sexualité et des conséquences des sexualités. Donc on voit bien que, hop, se posent d'autres questions qui à la fois tiennent à la manière dont on a lutté ou dont on a posé le problème à l'époque et qui continuent à avoir des réverbérations jusqu'à aujourd'hui. Puis les nouvelles conditions qui se posent chaque jour et les singularités de chaque situation.
Et ce qui est étonnant dans ce phénomène de diffusion dans le temps, c'est aussi que des retournements peuvent se faire. Des reculs, on a l'impression, en droit aussi. Ce qui est très fort dans votre livre, c'est que les premières pages peuvent apparaître justement en très grand décalage avec nous, notre réalité, on va dire, parisienne, une réalité de milieu éventuellement aussi, et en partie étudiant. Je pense à cet énorme phénomène autour du queer et de qui devient presque un écran à d'autres réalités qui touchent les femmes quotidiennement. Donc voilà, l'introduction de votre livre revient sur une lutte qui a été menée par des femmes dans le contexte d'un travail difficile, le travail de service et de propreté qui était sous-traité dans une gare parisienne, et une lutte qui a été médiatisée, relativement médiatisée, qui a porté ses fruits et qui pointe un peu le fait qu'il y a plusieurs regroupements de femmes qui se côtoient, ou justement qui se côtoient pas, mais qui s'entrelacent, et différentes réalités de lutte qui par contre ne se rejoignent pas forcément. Alors comment appréhender autrement que dans la stupeur ce fort décalage, cette désynchronisation locale?
Il faut réapprendre peut-être à voir ce qu'il y a autour de nous, comment le monde est construit, et sortir de catégories globalisantes. Vous voyez, je suis queer, je vais m'occuper simplement de cette question-là, la question queer. Je suis étudiante, je vais m'occuper, même si on comprend que dans la réalité quotidienne, dans le jour, il y a quelque chose de la réalité sociale dans laquelle on est prise et qui fait qu'on va d'abord essayer de répondre à ces questions pressantes. Mais la question du nettoyage que vous soulevez, effectivement, on passe à côté. Je veux dire, c'est là. On n'a pas besoin d'aller très loin du monde où on est.
Je pense que même la pièce dans laquelle on se trouve, sans qu'on ait rencontré les personnes, a été traversée par d'autres femmes ce matin.
C'est absolument important de voir cette invisibilisation de femmes racisées, hein, c'est-à-dire de femmes qui sont, à cause de leur origine, de la couleur de leur peau, de leur nom, renvoyées à ces travaux. Et qui permettent à la société de fonctionner. On n'imaginerait pas. On voit bien tous les matins, on prend le métro, le RER, on va dans les gares, ou si on prend un avion, ben on va dans les aéroports, on rentre dans un amphithéâtre, on rentre dans un centre commercial. Ça a été nettoyé. Sinon, les banques, les assurances, sinon ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Et tout ça repose sur le travail totalement invisibilisé de centaines de milliers de femmes. Alors, c'est une industrie en France qui explose, hein, qui a pris énormément d'importance aussi. Et justement, sur ce travail totalement invisibilisé. Et je voulais vraiment commencer par ça, parce que c'est une lutte qui, pour des féministes, absolument primordiale, puisque c'est un des lieux de dénonciation première, si vous voulez, sur la fameuse double journée de travail des femmes. Le fait que quand on rentre du boulot, ben, il y a encore du boulot. Il faut s'occuper des enfants, faire la cuisine. Ou s'occuper de son copain. Enfin bon, c'est ce qui est dévolu aux femmes, ce que les femmes devraient faire. Et là, c'est trois fois, quatre fois ça, puisqu'on voit que ces femmes dorment très peu, parce qu'il faut qu'elles se rendent sur leur lieu de travail. Elles vivent très loin de leur lieu de travail. Elles sont obligées de faire plusieurs moments de transport dans la journée. Elles sont sous-payées. Elles ont des problèmes physiques, puisqu'il c'est très lourd, tout est très lourd à porter. Elles sont confrontées à des produits chimiques extrêmement dangereux pour la santé. Et tout ça se passe pour que nous puissions continuer à circuler et à discuter et à travailler. Donc ça me semblait extrêmement important de montrer qu'un féminisme, ce que j'appelle un féminisme décolonial, ne peut plus s'appuyer sur le fait que des femmes fassent disparaître d'autres femmes.
Comme si c'était acquis qu'on passait à une autre dimension.
Oui. Si un féminisme s'est révélé de mettre à jour la manière dont des oppressions se mettent en place, à la fois très visible ou même plus invisible, c'était tout le travail de tout le temps de féministes. Bah, celui-là, c'en est un. Donc, ça devrait être la tâche de féministe de dire notre confort s'appuie en grande partie sur le travail que font des femmes qui sont racisées, qui sont exploitées, précarisées. Les témoignages des femmes qui nettoyaient les gares, ou celles qui après ont fait grève dans les grands hôtels où le client paye 1 500 € la nuit ou plus, et qu'elles se battaient pour au moins des conditions de travail décentes, on voit l'écart. L'écart d'une vie qui est la vie qu'on voit dans les magazines et que cette vie repose là-dessus. Donc c'était pour moi de revenir à des choses tout à fait concrètes.
Oui, l'atout de la recherche que vous menez, en tant que politologue, je vois beaucoup vous voir qualifié principalement par ce statut. On va y revenir peut-être derrière pour comprendre quel est le lien avec la pensée qui peut être plutôt catégorisée universitaire et comment elle se diffuse aussi pour pouvoir influencer le monde de la culture et de l'art, entre autres. En tout cas, ce va-et-vient entre les dimensions nous ramène aussi à notre quotidien, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est à mon avis la perception première. À mon avis, c'est bon signe, elle est douloureuse aussi quand on lit votre livre. Donc là, on en revient à notre constat de départ. Beaucoup de programmation de jeunes collectifs émergents aussi dans notre milieu. Et pour faire un parallèle entre ce problème d'invisibilité qui peut perdurer dans les causes les plus justes. J'ai transposé directement à des situations que je connais locales où on a tendance à penser aussi que les corps sont les groupements de femmes du fait de leur nationalité, de leur niveau d'études, etc. sont homogènes et j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas du tout.
Non, il n'y a pas de... Je veux dire, même la catégorie « les femmes » ou « les femmes » est une catégorie à interroger. Comment c'est construit ? Bon, d'une part, il y a de nouveau ce qu'on remarquait précédemment, une espèce de constante hein, depuis quelques siècles de ce qui est femme, c'est-à-dire c'est la future mère, celle qui... Enfin, je veux dire, toute une série de choses attachées à la catégorie femme. Et puis, toutes des choses qui changent, toutes les revendications qui se passent depuis les années 60 sur les femmes professionnelles ou sur l'égalité au travail. Mais la manière dont la catégorie femme est construite, il faut qu'on y fasse attention. Les femmes existent singulièrement, déjà. Je veux dire, et ce n'est pas simplement une question de classe sociale. Ça peut être aussi, on peut être de la même classe sociale, mais avec des histoires d'enfance totalement différentes qui vont influer, qui vont affecter la manière dont vous percevez vous-même et vous percevez le monde autour de vous. Et à l'intérieur aussi des catégories raciales, ça sera aussi la même chose. Donc chaque moment est traversé par plusieurs choses. Nous sommes à la fois multiples, évidemment, comme être humain, mais à la fois prise dans des catégories. Donc, et la dernière chose que je voudrais dire, c'est quand on se constitue en femme en lutte, c'est autre chose. Quand ces femmes dont on parlait se constituent en tant que femmes qui luttent, c'est-à-dire en tant que celles qui nettoient les chambres dans les hôtels ou qui nettoient les gares, ou par exemple en tant que femmes étudiantes dans un syndicat étudiant, parce que tout d'un coup, les revendications plus particulières que pourraient avoir des femmes étudiantes sont totalement balayées parce qu'on serait tous pareils et qu'elles pourraient avoir sur des choses sur la sécurité ou la manière dont les cours sont faits ou le harcèlement, enfin, toutes ces choses dont les femmes parlent, ou le fait que on va plutôt, en tant que femme, nous pousser vers des filières qui seraient associées à être femme et non pas à devenir grand ingénieur ou polytechnicienne. Enfin, toutes ces choses, et que quand on sort de là, mais qu'on sort de ces catégories, de ces normes, et qu'on se constitue en tant que femme en lutte, que ce soit dans un syndicat ou en association, là, effectivement, il y a autre chose qui naît de cette catégorie femme, puisque c'est nous qui nous la donnons. On se pose en tant que tel à partir d'une position qui a été une position d'analyse de notre situation. On s'est dit, non mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. On va se réunir entre nous, on va un peu discuter, et comprendre pourquoi c'est comme ça, et voir à partir de cette compréhension quelle forme de lutte on va mener et quel discours on va développer. Et après, on peut aussi voir, alors de nouveau, puisqu'on est quand même dans une radio d'étudiants, alors en tant qu'étudiante, on serait là, on trouve que ces revendications-là doivent être poussées, et puis on se dit, mais alors quel lien je peux avoir avec ces femmes, par exemple, qui luttent dans un hôtel ? Parce que finalement, on n'a rien à faire. Je veux dire, on pourrait se dire, a priori, mais on n'a pas du tout les mêmes expériences. Mais ça, c'est alors à ce moment-là, c'est quand même des choses de solidarité. Et la première chose, c'est toujours aller vers les personnes qui sont constituées en tant que plus précarisées. Donc pour des étudiantes, ça pourrait vouloir aller de rencontrer ces femmes pour justement découvrir cette réalité dont nous parlions, qui nous est rendue invisible.
Et oui, et on peut aussi noter que cet adjectif racisé plaque aussi, enfin nous permet de voir, mais aussi peut invisibiliser des parcours qui sont très différents, des origines migratoires extrêmement variées, des parcours de vie qui peuvent aussi être très singuliers. Donc
c'est toujours cette circulation, c'est-à-dire la société, une jeune femme qui arrive d'Afrique subsaharienne, elle est vue comme noire, disons une jeune femme est vue comme noire. D'accord. Elle peut arriver de Martinique, de Guyane, de Mayotte, du Togo. Elle est vue comme noire, donc essentialisée complètement. C'est-à-dire, et du coup, on va assumer qu'elle est africaine et qu'elle peut parler de l'Afrique, alors qu'elle est née ici dans le 11e arrondissement, par exemple. Et c'est tout à fait, évidemment, donc il y a ces formes globalisantes, mais on ne peut pas empêcher qu'il y ait quand même une expérience de cela. C'est-à-dire qu'à la fois... Elle a sa singularité, elle est née là, son père est de Mali, sa mère est de Guadeloupe, bon, c'est des histoires, et puis elle a grandi, et puis elle a un cousin qui est venu du Vietnam, enfin peu importe, c'est toutes les histoires multiples, singulières. Mais Donc ça, c'est sa singularité. Mais le fait qu'elle soit perçue comme noire et donc renvoyée au fait d'être noire et à la manière dont la société française est raciste, enfin le racisme, la part raciste de la société française, fait qu'elle peut aussi vouloir se constituer comme noire et lutter avec des femmes noires. Donc on est, et personne ne confond la lutte, la catégorie dans laquelle qu'on constitue pour lutter contre certaines choses et sa propre vie. Mais donc on peut pas, des femmes qui ont été fabriquées comme blanches ne peuvent pas dire à des femmes noires, nous avons la même expérience, parce que ce n'est pas vrai. Je veux dire, encore mercredi, il y avait une jeune femme étudiante qui témoignait du fait qu'elle avait, elle avait pris un studio, puis elle arrive, elle vient de Guadeloupe, elle avait donc un nom pour les Français. Et quand le propriétaire l'a vue, elle dit « on ne loue pas aux Noirs ». Et ça, c'était lundi de cette semaine. Et ça, c'est quand même une réalité dont on doit tenir compte. C'est-à-dire que le racisme, ça existe.
On va faire une petite pause, Johanna, et on revient tout de suite après pour parler, entre autres, de décoloniser les âges.
Apprends que je suis l'autre, je suis toi, tu as toujours été l'autre. Apprends que nos cœurs sonnent à l'unisson. À l'approche de l'autre, une seule et même force. Vivre le dessin, briser notre écorce. Parce que nous sommes l'autre et que l'autre nous se fond. Parce que nous sommes l'autre, que les autres.
De retour sur Fun Talks avec Françoise Vergès, en ce 8 mars 2019.
Eh oui.
Beaucoup de temps passe et beaucoup de choses à faire encore. Hein.
Oui, oui, beaucoup de choses à faire, mais enfin, on avance, et puis voilà, non, il y a beaucoup de choses à faire. Mais du coup, c'est aussi ça qui est passionnant, c'est que ça n'arrête pas. On n'est pas... Ça réveille l'esprit. C'est bien, je trouve, quand on est... C'est bien, je trouve que ça change.
En tout cas, pour pouvoir aller de l'avant, c'est bien d'avoir des des positionnements, donc des figures aussi qui permettent de s'enraciner dans une pensée qui a déjà qui s'est déjà transmise, qui a déjà suscité les débats, des idées qui ont été acquises, qui doivent toujours être réactivées. On parle hors antenne d'Aimé Césaire. Vous, aujourd'hui, vous avez des figures amies, vivantes, actives, de la pensée qui vous entoure et qui vous stimule dans vos écrits ?
Oui, mais ça peut être même, peut-être pas des figures universitaires, mais des personnes que j'entends. Moi, je suis très guidée par la curiosité. Je suis très, très... Donc, d'écouter... toutes les femmes que je peux rencontrer et que dans ce qu'elles j'entends, qui vont m'interroger sur tiens ce que j'avais pensé avant-hier et qui vont me dire tiens j'avais pas pensé à ça ou tiens ça c'est une chose ou qui me renvoient à quelque chose et puis qui me font avancer. Donc c'est déjà des femmes que j'ai rencontrées en Afrique, en Asie, à l'île de la Réunion où j'ai grandi, hein, qui restent dans pour moi absolument importante, des figures importantes. Et puis parmi celles qui écrivent, il y a tout le féminisme noir américain des États-Unis et puis du Brésil aussi, ce qu'on appelle aussi le féminisme des peuples autochtones, parce qu'elle développe toute une pensée sur la relation entre nature et société que je trouve très importante aujourd'hui, avec tous les défis qui nous attendent.
Oui, qui vont nous apprendre.
Et puis les artistes, beaucoup d'artistes. Ça fait très longtemps que je travaille avec des artistes, hommes et femmes d'ailleurs, c'est pas seulement des femmes, et qui pour moi sont extrêmement importantes. Mais c'est aussi sortir parfois de ce qui pourrait être ma discipline, s'il y en avait une, et d'aller écouter des personnes qui ne sont pas du tout, qui ne seraient pas a priori liées à ce que je fais, et qui vont du coup vraiment me questionner. Ça, c'est vraiment me faire entrevoir quelque chose, et notamment le domaine des sciences, de ce qu'on appelle les sciences de la nature et de la vie, que je lis, et je lis régulièrement des articles, pas des articles trop poussés, parce que, bon, je sais pas, moi, sur l'univers, je suis quand même, parfois, je comprends pas toujours, hein, faut rester calme, hein, mais sur la question de la manière d'aborder, la vie, quoi, de comment, ce qu'on peut apprendre des paléontologues, on se peut apprendre, ça m'interroge, si vous voulez, sur la manière dont je vois les choses.
Oui, une vision transdisciplinaire, non ? Est-ce que
vous... Oui, par exemple, je suis très intéressée par l'archéologie, finalement. J'y connais rien, je veux dire, je ne suis pas archéologue du tout. Hein. Mais ce que l'archéologie nous fait découvrir, et du coup, un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire un côté mais tant long, mais profond aussi, qui nous concerne. C'est-à-dire sortir un peu de cette économie de l'immédiateté qui nous pousse, qui devient de plus en plus importante aujourd'hui, de cette vitesse dans laquelle on nous met, et de temps en temps de se rappeler que je ne sais pas combien de milliers d'années, il y avait toujours quelqu'un qui tombait amoureux de quelqu'un d'autre, une femme qui sauvait son enfant, un homme qui allait mourir pour d'amour, enfin des choses tout à fait aussi tout à fait qui font partie de nos vies, quoi. Qui sont pas simplement des grands récits,
oui,
des grandes épopées,
différentes échelles
échelles, oui, les petits objets, les petits objets. Quand je vois par exemple certains bijoux qui ont été retrouvés dans des tombes, mais je trouve ça très émouvant qu'il y a si longtemps, il y avait des femmes et des hommes qui voulaient se mettre des parures et avaient déjà ce souci de la beauté et de la parure. Je trouve ça très émouvant.
Et vous parliez des artistes, comment vous arriviez à intégrer leur pensée, qui n'est pas forcément théorique, comment vous la qualifieriez d'ailleurs de l'activité, qui est d'ailleurs parfois très disparate d'un artiste à un autre ?
Oui, alors c'est aussi l'intérêt pour l'art, parce que quand je grandis à l'île de la Réunion, la manière, si vous voulez, de réapproprier aussi l'histoire du pays est passée par la culture et l'art, et, bon, notamment surtout la musique à l'époque, beaucoup la musique. Et donc, la part que les arts jouent dans la transformation du monde, dans la manière de penser, d'ouvrir aussi nos horizons, a fait partie de ma vie. Et puis le cinéma, beaucoup, au départ. Cinéma, bon, on pourrait parler de littérature, mais c'est vraiment le cinéma a été très, très important et continue à être très important. Et comment le cinéma a contribué aussi à questionner des représentations hégémoniques de femmes, de racisées, de colonisées, des esclaves, a été très important, cette manière de représenter, de dire des récits, de raconter des histoires par le cinéma.
Mais c'était des films qui étaient volontairement engagés, on va dire.
Oui, mais ça a pu être le nouveau réalisme italien, ça a pu être la nouvelle vague, et puis c'était les films qui venaient, oui, du tiers-monde. C'est même aussi l'iconographie qui m'a beaucoup... Les affiches qui étaient faites, qui ont beaucoup interrogé aussi sur ces représentations, sur des représentations hégémoniques, et montré une autre représentation. Tout ce qui est sorti des mouvements féministes des années 60-70 est extrêmement créatif, inventif, aussi ça m'intéressait. Et puis, dans les années 90, quand j'étais aux États-Unis, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes, notamment avec Isaac Julien, qui est un artiste queer noir anglais, sur son film sur Frantz Fanon. Et après, on est devenus très amis. Et puis, enfin, des tas de choses, des tas d'autres artistes m'intéressaient à la manière dont elle et il parlent de choses, enfin, des choses qui m'importe, mais en me proposant une autre manière de l'approcher. Et ça m'intéresse beaucoup.
En tout cas, j'ai l'impression que l'échange se fait dans les deux sens et que vous lire aussi en tant qu'artiste ouvre des perspectives de formulation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur Décoloniser les arts ?
Alors, Décoloniser les arts, c'est ce collectif que j'ai cofondé avec d'autres, surtout d'autres femmes d'ailleurs, racisées, et qui était sur la question d'abord d'un constat, mais enfin les arts, le monde des arts se présente comme étant très progressiste et très ouvert, ce qu'il est quand même en grande partie, mais en même temps en masquant ce qui pourrait avoir de sexisme et de racisme dans le monde, dans son fonctionnement, mais aussi dans ce qui est produit et ce qui est représenté. C'est-à-dire quand même, les grands noms, c'est des grands noms de metteurs en scène ou de directeurs de théâtre. Et c'était déjà donc de faire ce constat. C'était les institutions artistiques et culturelles en France sont dirigées par des hommes blancs. Voilà. Et puis on peut descendre assez rapidement, et que le deuxième constat, les personnes racisées, ben c'est souvent les femmes qui nettoient les lieux, ou les hommes qui gardent les vigiles. Donc ça, c'était le premier constat, mais la chose qui nous importait surtout, c'est la décolonisation des récits. Mais au-delà de simplement dire sur la scène, il faudrait qu'il y ait plus de Noirs, plus Arabes et plus d'Asiatiques, bon, qui est peut-être quand même le minimum, c'était au-delà, mais nous, si nous devions par exemple demain représenter la question de l'esclavage colonial, on fait comment ? C'est-à-dire vraiment de se poser la question, de sortir peut-être de ce qu'on nous a enseigné. Ben voilà, il faut mettre une image, il faut contrer, il faut mettre une image contraire à l'image de celui qui est enchaîné. On va mettre l'image d'un homme debout et libre ou d'une femme debout et libre. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ces contres ?
De revoir l'imaginaire.
De revoir, oui, et justement de faire fonctionner le nôtre. Et d'essayer de se projeter encore plus loin, de se dire mais comment on pourrait faire. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi la question de la formation. Moi, je me suis beaucoup, ça m'importe beaucoup, c'est-à-dire pas simplement les artistes aujourd'hui qui sont déjà, mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles, qu'est-ce qui se passe dans les universités, et même qu'est-ce qui se passe dans les petites écoles, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants, quel est l'enseignement artistique qu'on fait, et pourquoi tant d'enfants des quartiers populaires et racisés se sentent totalement exclus de ça, de ces mondes. N'imagine même pas aller au musée, n'imagine même pas devenir aller aux Beaux-Arts, sauf exceptionnellement. Et ça pose quand même question. Oui, donc pour moi, la formation, enfin ce qu'on appelle l'éducation, enfin l'enseignement, je ne sais pas comment on dit, enfin bon, m'importe beaucoup. Et nous étions dans une école d'art lundi. Et c'était majoritairement des jeunes femmes, d'ailleurs, parmi les étudiantes, des jeunes femmes, d'une part, et d'autre part, blanches, et qui ont dit qu'elles trouvaient que l'école était trop blanche, que les enseignants étaient trop blancs et trop masculins, et que le curriculum était trop blanc. Donc elles-mêmes, elles se rendaient compte qu'elles étaient privées de quelque chose qui est aujourd'hui autour de nous, quoi. C'est pas du tout exotique, ou exotique au sens de exos, de loin de nous. C'est là, c'est juste à la porte de l'école.
Et pour revenir sur, vous preniez l'exemple de comment représenter l'histoire de l'esclavage. On s'entend sur ce terme de décoloniser. On n'est plus du tout, non seulement dans l'histoire premier degré de la colonisation, mais sur ses conséquences aujourd'hui dans l'ordre dont on a intégré les valeurs et les hiérarchies et les imaginaires. Là, c'est peut-être pour faire un pendant avec ces grandes notions que vous développez chapitre par chapitre dans le féminisme décolonial. On comprend aussi que vous nous permettez de faire un lien avec l'ordre libéral et ces reproductions ou cet enchaînement de valeurs dont on ne peut pas sortir.
Oui, on sait que le néolibéralisme pèse énormément sur le monde des arts et de la culture aujourd'hui, quoi, avec beaucoup de privatisation, beaucoup de marchandisation. Et comment, à la fois, quand on va à l'école ou quand on sort de là, comment on travaille, comment on est face à ces institutions absolument puissantes et puis à ces contraintes qu'on nous donne. Ben, si vous voulez recevoir un budget, ben, des subventions, il faudra ça, ça et ça. Et peut-être se poser toujours la question, mais comment rester autonome, comment rester indépendant dans nos têtes, en tout cas, et puis dans nos créations. Créer des collectifs, créer des endroits où on peut quand même se réfugier, penser vraiment comment on va décoloniser vraiment le cursus, quoi, les curriculums. Et comme vous le disiez, la question de la représentation se pose toujours. C'est-à-dire, la question de l'esclavage, c'est la représentation des corps noirs. Elle se pose toujours aujourd'hui. Elle n'a pas disparu parce qu'il n'y a plus d'esclavage. Et ça a imposé une forme de représentation du corps féminin et masculin où, dans lequel on est encore. Et cette décolonisation, elle est à la fois la décolonisation de soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris à ne plus voir, ou à ne plus sentir, à ne plus toucher, parce que les arts, c'est quand même les sens, quoi. Comment construire de nouvelles esthétiques? Et puis, quelles esthétiques ont été construites? Justement, que je vous disais, il y a quand même tout un corpus d'images qui est venu des sociétés qui étaient, au moment autant esclavagistes, puis coloniales, puis maintenant, hein, que ce qu'on appelle postcolonial. Et donc, tiens, il y a eu cet effort fait. Et pourquoi ce n'est pas enseigné qui me donnerait autre chose que simplement le fait que l'art serait né en Grèce et puis il faudrait suivre. Et que pour moi, si vous voulez, même si vous voulez devenir une experte de l'art grec au 5e siècle, vous devez savoir dans quelle société vous vivez. Donc même la question ne serait pas de faire de l'art décolonial au sens de, ben voilà, je vais m'intéresser à la représentation des Asiatiques, des Maghrébins, etc., ou comment faire ça, mais c'est même si je veux m'intéresser simplement au temple grec ou à la statuaire, je sais que je vis dans une société qui est marquée par ces choses-là, donc je ne peux pas en parler comme si j'étais au 5e siècle, j'en parle au 21e ouais, siècle.
Ce serait décoloniser les disciplines de la pensée.
Oui.
Décoloniser l'histoire de l'art.
Décoloniser l'histoire de l'art, énormément. Et pas simplement en mettant un masque africain à côté d'un Picasso. Bon, vous me direz, là, c'est quand même, ça fait 10 ans qu'on le dit, alors c'est fini, ça finit par se faire, tant mieux. Mais c'est même de repenser. Vous voyez, très, très, très rapidement, moi, c'était ces visites guidées que j'ai faites au Louvre et qui étaient de dire, on ne va pas chercher la représentation des esclaves, parce qu'il n'y en a pratiquement pas dans la peinture européenne. C'est vraiment quand commence l'iconographie abolitionniste. Anglaise notamment, au milieu du 19e siècle, et surtout la fin du 19e siècle. Mais auparavant, je peux trouver un tableau du 17e siècle hollandais où un homme bourgeois de la bourgeoisie hollandaise, c'est-à-dire vraiment on est au pic de la richesse, fume une pipe. C'est-à-dire à quel moment se représenter fumant et fait partie de la représentation du moi masculin en Europe. Mais alors, d'où vient ce tabac? Alors je tire un film, le tabac, et donc à quel moment le tabac, produit esclavagiste, rentre tellement profondément dans la société européenne qu'il fait partie désormais de la représentation. Au XVIe siècle, vous ne voyez pas de tableau avec des hommes fumant des pipes. Il y avait déjà du tabac, mais on n'est pas, vous voyez donc. Et à partir de là, on peut relire aussi, on peut faire des visites des collections telles qu'elles sont, et voir ce qui a été masqué, enfin, ce que cette histoire aussi nous raconte, qui n'est pas racontée à la première vie. Première vue, si je puis dire, mais qui est là. C'est-à-dire, et puis, ça pourrait être à quel moment je vois des sucriers, des cafetières, des théières dans des natures mortes, des fruits exotiques, de la porcelaine de Chine. Mais c'est arrivé comment, là, sur cette table de la bourgeoisie hollandaise ou de la bourgeoisie française? Et donc, je raconte d'autres choses. C'est aussi cette histoire de l'art. C'est, d'une part, tenir compte des autres, des arts, dans leur... quand on apprend, mais aussi à l'intérieur même d'un art qui serait européen, de tirer des fils qui resituent ce tableau dans un contexte à la fois européen et global, et donc nous permet de voir aussi au-delà d'une lecture littérale. Ah tiens, peintre de telle époque, il fera ça et ça, vous regardez la lumière, les ombres, comment il les organise, et puis vous voyez que c'est, enfin, bon, qui sont effectivement très importantes, mais on peut aller plus loin.
Alors bien sûr, c'est cet effort de déconstruction a une portée générale qui s'insinue aussi dans la politique, et c'est ce qu'on va pouvoir aborder juste après une nouvelle petite pause. À tout de suite.
Les souvenirs du temps, les rêves d'hier se ravivent aux ténèbres durant le sommeil. Une tête au fond d'un puits ne marche qu'à l'envers. Obligerai-je à la nuit des rayons du soleil?
De retour sur Funtalks avec Françoise Vergès. Merci Johanna pour cette transition en coulisses. Françoise, on revenait sur les dernières interventions que vous avez faites dans des écoles d'art, justement. La question récurrente, parfois avec plus ou moins de, vous sentez plus ou moins de d'éveil dans les esprits pour ressentir, en tout cas. Une forme de, comment dire, de privilège à accéder à certaines études, une conscience qui vient même de la part des étudiants qui sont dans ces écoles. On expliquait à quel point la pensée de la déconstruction avait une incidence directement politique, bien que ce soit une pensée large que vous développez. Peut-être que le terme de politologue peut nous aider à aborder, même si c'est justement, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on vient en conseil aux politiques, ou est-ce qu'on est influencé par
C'est peut-être qu'en France, il manque un peu de noms, si vous voulez, parce que en anglais, on dirait cultural historian ou cultural critic, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à la culture, mais en s'intéressant à l'histoire et à la manière dont le politique crée l'histoire ou vice-versa. Moi, j'ai été journaliste. Hein, quand je suis arrivée en France, à la fin des années 70, enfin milieu des années 70, je commence des études, mais je les abandonne rapidement pour passer au militantisme. Et puis, je vais être journaliste et éditrice pendant des années. Je vais, dans début des années 80, je vais aux États-Unis, mais pas pour travailler. Et 2 ans après, je me dis, bon, il faut quand même que je vais pas quand même continuer comme ça. Et tout d'un coup, c'est les États-Unis, je commence mes études universitaires là-bas.
Et vous expliquez que ça a été possible à ce moment-là parce que on est à l'émergence des visual studies, des cultural studies, et que la pensée est à un autre stade.
Oui, moi je me suis sentie très rapidement à l'aise. J'ai tout de suite écrit en anglais. J'avais plus 20 ans de toute façon, mais je publie des articles dès ma première année. Je faisais ma licence, hein, j'ai commencé vraiment la licence. Mais comme évidemment, comme je vous dis, j'avais pas 20 ans, j'avais décidé de faire 2 licences en 2 ans. Et d'obtenir la plus haute distinction aux États-Unis pour pouvoir ensuite postuler à une prestigieuse, comme on dit, université pour faire mon doctorat. Donc j'ai fait une licence en Women's Studies, en études féminines, et en sciences politiques, en political science. Et j'ai obtenu summa cum laude, qui est la plus haute distinction. C'est-à-dire que j'avais eu des bonnes notes partout, comme on dit. Et du coup, j'ai postulé je voulais faire un doctorat en sciences politiques. Mais la science politique, là-bas, était beaucoup plus libre. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler... Moi, je me suis mise dans la théorie politique, c'est-à-dire les idées, la question des idées, comment elles ont pesé, comment elles sont... traduites, comment elles sont reprises par les personnes. Je ne sais pas, par exemple, comment l'idée de liberté ne meurt jamais, alors que vraiment, elle est réprimée constamment. Il y a des dictatures, il y a des totalitarismes. Et toujours, l'idée de liberté revient au plus profond des nuits sombres des dictatures. Et j'ai fait donc mon doctorat et j'ai écrit. Et ce que je vous disais, c'est que je me suis sentie très libre, moi, en anglais. J'écris très librement en anglais. C'est une langue que j'ai pas fait d'études, hein, mais c'est une langue qui m'est presque venue, on pourrait dire. Et moi, ma thèse a été sur la question justement de la manière dont le colonialisme français avait plutôt comment du consentement s'était fabriqué dans la société française à l'esclavage, qui dure quand même 4 siècles, puis au colonialisme, puis ensuite, même dans la fin du colonialisme, contre les luttes d'émancipation, c'est-à-dire que les guerres coloniales que la France mènera. Donc, c'était pas une approche historique au sens là, mais c'est comment vous fabriquez le consentement, c'est-à-dire comment finalement ça devient naturel d'avoir des esclaves, enfin qu'il y ait de l'esclavage quelque part, ou qu'il y ait des colonies, et puis que des guerres soient menées, et sur quelle était la base des résistances, quelle était la forme. Et je m'intéressais à des tas de formes, donc des formes artistiques, mais des formes littéraires, poétiques et politiques par lesquelles s'expriment les résistances.
Oui, ce qu'on évoquait, c'est la possibilité d'utiliser plus facilement certaines notions en anglais, donc dans un contexte universitaire différent de celui en France, et que certaines choses méritent plus d'explications ici dans le cercle universitaire. Et on parlait de race, par exemple, une notion qui est peut-être plus comprise, mieux comprise.
Oui, vous dites
comme
race,
outil de pensée.
Voilà, vous dites race, personne ne pense que vous êtes en train de croire à la race biologique. Enfin, personne. Alors ici, ça est en train de changer, hein, quand même. Il y a de plus en plus de publications, puis il y a quand même des enseignants et des enseignantes qui s'y mêlent. Mais c'est vrai que généralement, il y a quelque chose qui continue à peser. Et puis même, par exemple, la question de l'universel, hein, de ce qu'on appelle le féminisme universel, des femmes qui disent « on défend un féminisme universel », c'est des choses qui ne tiendraient pas du tout 2 minutes en disant « je suis une intellectuelle et je suis pour le féminisme universel », mais personne ne prendrait ça au sérieux aux États-Unis ou en Angleterre. Mmh. la critique de l'universel s'est faite déjà, ce qui ne signifie pas qu'on soit simplement dans des petites luttes individuelles. Mais cette forme d'universel qui prétend de parler pour tout le monde et à la place de tout le monde, c'est absolument, personne ne peut nier deux minutes, alors qu'on a vu il y a 2-3 jours qu'il y avait encore un texte pour un féminisme universel qui paraissait, qui aurait été signé d'intellectuels. C'est absolument impossible à penser dans ces contextes, quoi. Et de se dire surtout intellectuel et de le faire, que ça vienne de gens totalement conservateurs, mais là, c'est de dire, mais on est les mêmes, certains qui se disent philosophes, et de le prétendre, mais c'est même nier des travaux en France faits par des Français. Je veux dire, je comprends qu'ils veulent pas lire Aimé Césaire, Franz Fanon et Sanjay Subramanian, ou je sais pas. Enfin, ils peuvent lire Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola, qui leur diront que l'universel occidental, ça n'existe pas.
Oui, l'universel occidental. Et justement, pour penser aux auditeurs qu'on voit forcément la distinction de ces notions, on peut évoquer ce que représentait l'appellation de Global South. Lorsque vous avez été à cette chaire, invité à la Maison des Sciences de l'Homme, que vous avez quitté l'année dernière, un parcours qu'on peut peut-être évoquer en deux teintes. Déjà, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place de positif?
Quand j'étais invitée à créer une chaire au Collège d'études mondiales, j'ai pensé à Global South. Je ne voulais pas faire quelque chose sur postcolonial, tout ça, d'une part à cause de tous les débats qu'il y a en France et que c'est mal compris. Puis surtout, je trouvais que c'était intéressant cette notion de Global South, de Sud global. Et ça, c'était au pluriel, hein, puisque justement, je posais le fait que ce n'était pas une notion géographique, c'est-à-dire c'était pas simplement que cette fabrication de Sud comme un endroit exclu, abandonné économiquement et socialement, pouvait tout à fait se faire en Europe, on le voit. Et que l'Europe avait, elle aussi, son propre Sud. C'est-à-dire que quand on pense à la Sicile ou des régions en Espagne ou au Portugal ou en Grèce, ça n'existe pas du tout dans la conscience européenne comme des endroits qui feraient partie de l'Europe développée et d'aujourd'hui. Donc, et à travers cette notion, c'était justement comment se fabrique à travers le néolibéralisme actuel et à travers l'économie libérale, une redistribution, une reconfiguration de la cartographie mondiale et qui fabrique des vies vulnérables, des vies très très vulnérables. Donc là, j'avais développé plusieurs axes parce que le fait d'être au Collège d'études mondiales, j'étais pas obligée de faire de l'enseignement. C'est pas une université. Donc je me suis dit, tiens, je suis plus libre que les contraintes que m'imposerait un enseignement. Et j'ai développé un axe sur la question de l'esclavage, mais pas historique simplement, mais en quoi justement ça continue à nous importer, avec professeur Mark Strediker, qui a notamment publié plusieurs livres qui ont été traduits en français, qui est un des plus grands historiens sur la question de l'esclavage et du monde atlantique. Un axe qui était avec des artistes, et que j'avais appelé l'atelier, avec 20-25 artistes, parfois 30, plutôt entre 20 et 35 ans, racisés, en grande majorité, autour de la création d'une performance collective, justement, et de pas donc personnelle, pas le photographe, plus le danseur, plus la danseuse, plus le... Mais on se met ensemble et on crée une performance collective.
Que l'on peut voir encore aujourd'hui, qu'on peut le retrouver sous quel nom?
L'atelier s'appelle avec l'atelier, parce que justement c'était sous cette idée d'atelier, c'est-à-dire de l'atelier de ce qu'on appelait les artisans qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit se mettre ensemble pour, je ne sais pas, construire cette table autour de laquelle on parle, quoi. C'est pas... j'en ai fait plusieurs. L'an dernier, ça s'appelait La guerre, la paix et l'eau. Et c'était sur la question de l'eau, absolument essentielle à la vie humaine et qui est pratiquement le premier geste qu'on fait quand on a quelqu'un ou quelqu'un demande dans la rue un verre d'eau. C'est vraiment le geste humain, quoi, le premier geste humain de reconnaissance d'un être humain à l'autre et qui est criminalisé puisque d'offrir de l'eau peut être associé aujourd'hui, quand on donne de l'eau aux migrants, à être complice des trafiquants. C'était aussi l'eau où meurent tant d'Africains chaque jour ou de Syriens les eaux de la Méditerranée, c'était la question de la pollution des eaux qui est partout. Donc c'est, pour moi, c'était ça. Et la guerre qui s'annonce autour de l'eau et qui est déjà là. Et la paix qui est reliée donc à ce geste de donner de l'eau et puis de partager de l'eau, qui est indispensable à la vie humaine, puisqu'on ne peut pas survivre très longtemps sans eau, alors qu'on peut survivre un petit peu plus longtemps sans manger. Et donc à partir de là, c'était d'organiser, si vous voulez, très rapidement, il y avait trois groupes, le groupe des Cassandres qui nous alertait sur les choses qui allaient venir et que finalement, évidemment, qu'on n'écoute pas, puisque c'est ça les Cassandres. Un groupe qui était les Amazones et guerriers qui trouvaient que la guerre, il faut la faire parce qu'il y a des guerres qu'il faut faire, des guerres contre les puissants. Et puis un groupe qui était les migrants et les protecteurs qui protégeaient l'eau, qui essayaient de protéger l'eau, mais qui erraient pour chasser par la guerre et pour chasser par les guerres économiques ou les guerres réelles. Et ces trois groupes j'avais proposé des textes, ont construit chacun un petit peu leur performance, et puis on s'est retrouvés tous les trois groupes, ensemble, en ayant simplement dit, bon, tu as besoin de quoi, mais on n'avait pas répété ensemble, parce que c'était le côté aussi spontané, et on ouvre au public le deuxième jour, et on a ouvert au public, et c'était magnifique, c'était absolument magnifique, et un des principes, c'est de garder l'économie la plus basse, ça pour moi c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses avec pas grand-chose, pour qu'on ne soit pas soumis, ah non mais si j'ai pas 10 000 euros, je pourrais pas faire. Non, on peut faire avec 100 ou 150, du moment qu'on met nos forces ensemble. Un troisième axe qui avait été sur des questions racisme après le post-racial, c'est-à-dire la question de qu'on serait dans un moment de post-racial, et que donc de proposer plutôt le post-racisme et de voir ça. Donc ça, c'est des conversations au niveau international avec des personnes qui étaient venues du Brésil, des États-Unis, d'Angleterre, tout ça. L'an dernier, enfin il y a 2 ans, j'avais fait Global 68 où j'avais invité Angela Davis. Et...
Oui, je vous ai rencontrée à ce moment-là d'ailleurs.
Et bon, enfin plusieurs choses, et qui était justement un 68 qui sortait de simplement l'histoire franco-française de Nanterre et les barricades et les grandes grèves, mais qui avait montré qu'il y avait des choses incroyables à Dakar, Mexico City, partout. Et aussi, bon, évidemment, il y a des femmes et puis les conversations sur aujourd'hui, l'impact pour aujourd'hui. Donc des séries de conférences, des tables rondes aussi. J'ai fait un cycle aussi avec la réalisatrice et théoricienne féministe Trin Minh Ha autour de ses films. Tous ses films ont été montrés et je l'ai fait venir de Berkeley. Enfin, vous voyez, donc plusieurs choses comme ça qui offraient sur plusieurs plans, je peux dire, des espaces pour réfléchir ensemble et pour discuter ensemble.
Donc des jalons possibles de rencontres qui portent encore leurs fruits aujourd'hui à la Maison des Sciences de l'Homme. Comme on l'a vu tout à l'heure, plusieurs vitesses pour une réalité partagée, mais avec beaucoup de désynchronisation. J'ai envie de vous poser la question aussi de... Enfin, on va le développer juste après, sur cet aspect militant qui vous a été transmis et sur cette compréhension tôt que vous avez eue du risque qu'il y a d'entrer en politique, y compris de la frustration éventuellement de voir que certaines des initiatives les meilleures ont aussi des limites, lesquelles par exemple dans ce contexte.
Je pense que peut-être aujourd'hui l'effort qu'il faut faire, c'est vraiment cet effort de comprendre que la question raciale est au cœur des luttes en France. De l'antiracisme, d'un antiracisme politique. C'est-à-dire, c'est pas que la question raciste est plus importante que toutes les autres, comme on me répond chaque fois, mais que tant que tout un mouvement pour les libérations, on pourrait dire pour la justice sociale, ne sera pas posé la question des injustices et du racisme, on ne pourra pas avancer. Voyez, il y a quelque chose dans le féminisme qui doit vraiment prendre vraiment conscience qu'on ne peut pas continuer à parler de féminisme universel sans s'intéresser à la manière dont les femmes sont traitées, les femmes musulmanes, les femmes qui portent le voile, les femmes noires sont traitées dans cette société. C'est pas possible. C'est pas possible de se poser la question. Quand je dis blanche, on me dit mais ça n'existe pas, c'est raciste. Mais ce sont les femmes blanches elles-mêmes qui se sont dites blanches. Et qui ont parlé dans des textes au 19e qui parlent « nous, femmes de la race blanche ». Donc, il y a quelque chose, des féministes, comme Hubertine Auclert, qui dit « les femmes de la race blanche devraient avoir le droit de vote puisque nous sommes plus éduquées, plus civilisées que tous les autres ». Et elle base la demande du droit de vote sur cette question d'être des femmes blanches et non pas sur la question d'un universel. Et ça a pesé. On peut pas faire comme si ça n'avait pas compté. Et comment déracialiser et décoloniser le féminisme est une question, je pense, essentielle. Donc, c'est une question du militantisme aujourd'hui. C'est ce que je montrais dans mon livre Le ventre des femmes.
Quatre vulves, vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve, vulve vole, quatre vulves, vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve, vulve vole, quatre vulves, vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve, vulve vole, quatre vulves, vulves s'envolent. Des milliers de vulves vont en farandole, une vulve vulve vont en farandole, quatre vulves s'envolent. Des milliers de vulves vont en farandole, une vulve vulve vont en farandole, quatre vulves vulves s'envolent. Des milliers de vulves vont en farandole, une vulve vulve vont en farandole, quatre vulves vulves s'envolent. Des milliers de vulves vont en farandole.
De quelle manière, donc oui, c'est le livre que vous avez sorti en 2017 et qui montre, vous l'avez évoqué aussi dans une émission à épisode sur France Culture où vous revenez sur votre parcours, et je me souviens que vous avez ces mots en parlant de la guerre, en expliquant que ce ne sont pas simplement des grandes batailles mais des choses qui se vivent dans les corps individuels. Et donc pour revenir sur cette difficulté à faire accepter la pensée, est-ce qu'il y a quand même une opportunité dans... Du côté des arts, on l'a un peu évoqué, on va y revenir. Et du côté de l'université, est-ce qu'il y a une marge? Quelle est-elle? Et jusqu'où s'arrête-t-elle?
Il y a aujourd'hui des enseignantes et des enseignants qui font des choses. Il y a des cours, hein, quand même, ça a changé. Mais la France est un peu de haut en bas. Hein. Tant qu'il n'y aura pas vraiment quelque chose qui vraiment transforme, on sera en deçà, si vous voulez. Il y a des étudiantes qui ne trouvent pas comment... développer leur mémoire ou leur doctorat, parce qu'elles n'ont pas trouvé l'enseignante ou l'enseignant qui va accepter. Parce que, je ne sais pas, elles sont dans un endroit, elles ne peuvent pas toutes venir à l'université où il y a l'enseignante ou l'enseignant qui va être attentive ou attentif à ce qu'elle fait. Donc c'est quand même, c'est un problème. Le fait qu'il n'y ait pas de département d'études postcoloniales et coloniales dans les universités est quand même un problème. Vous voyez, le fait que toutes les disciplines devraient avoir... Il devrait avoir un cours sur l'histoire coloniale de la France. Comme je le disais, bon, pour devenir artiste, même si vous devenez spécialiste de la littérature du 17e siècle, comment pouvez-vous ignorer le fait que la France était déjà dans la conquête coloniale? J'arrive pas à comprendre. Comment il y a... ces travaux qui ont été faits très tôt, hein, par des féministes aux États-Unis ou en Angleterre, qui étaient de relire notamment la littérature du 19e siècle avec ça en tête, c'est-à-dire de montrer que, par exemple, dans les Hauts de l'Hurlevent, il y a cette femme qui est autogrenier, Bertha, qui a été ramenée des Caraïbes, mais c'est quoi? C'est la femme noire qui est enfermée au grenier. Vous voyez, c'est se refouler, c'est cette chose qui était mise au grenier ou à la cave. Ou moi, je me rappelle quand j'avais enseigné en Eugénie Grandet, à un moment donné, le jeune homme dont elle est amoureuse, il y a une phrase, il part aux colonies, il revient, il a fait fortune. Mais attendez, il est allé aux colonies, mais où quoi? Il a fait fortune comment? Certainement pas en vendant des assiettes. Bon, mais en étant un colon. Donc ça transparaît, c'est rentré dans la littérature, c'est rentré dans la poésie, c'est rentré dans les musées, c'est rentré dans la musique. Puisque l'an dernier aussi au Musée de la Croix, on avait fait entendre comment l'orientalisme va changer la musique classique française. Et ça, c'est une autre manière d'aborder le monde et non pas de se crisper en disant « Mais quoi, vous voulez nous faire de la repentance et tout ?» Mais non, c'est là. De toute façon, c'est là. Donc autant le savoir, autant le comprendre pour aussi, aujourd'hui, ne pas perpétuer des attitudes racistes et paternalistes.
Est-ce que vous arrivez à voir autant à la suite des rencontres que vous avez générées à la Maison des Sciences de l'Homme que à travers les différentes rencontres et rassemblements qui ont généré la question de décoloniser les arts. Est-ce que vous avez vraiment une forme d'avenir? Comment ça se passe?
Oh oui, je pense absolument, et même pour le livre Un féminisme décolonial, alors 15 février, je pense que j'en suis à ma 10e rencontre au moins, donc vous voyez, c'est vraiment en très peu de temps. Énormément de très jeunes femmes, mais 20 ans, hein, 21 ans, parmi cette majorité de jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes racisées, et qui veulent justement sortir de tout cela. Qui veulent, que faire, comment faire. Et il y a aussi des jeunes femmes blanches qui se posent la question, mais comment je peux être militante, et tout en tenant compte de ça, comment je me présente pour ne pas reproduire les choses justement qui ont été mises à jour par tous ces travaux et toutes ces études, ou qui me sont renvoyées par mes amis racisés qui me disent non mais toi... Bon. Et ce sont des questions extrêmement importantes.
Oui, vous m'aviez dit que donc c'était en rencontrant aussi ces publics jeunes que c'était une question récurrente qu'on vous posait. Quels sont les outils?
Quels sont les outils? Comment faire? Alors, par exemple, alors très concret, bon, alors on va donner des exemples concrets plutôt que... Alors, une jeune femme blanche, c'était à Toulouse, elle me dit, mais moi je suis blanche, comment je fais? Je suis dans une association. Alors je dis, mais dans votre association, il y a des personnes racisées? Oui. Elles viennent d'où? Alors, comme par hasard, elles venaient de l'île de la Réunion, ces étudiants, ces amis. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous connaissez de cette... Rien. Je dis, comment vous avez ça? Elle dit, je vais leur demander. Je dis, non. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont accessibles pour toute personne qui veut savoir. En 10 ans, les 10 dernières années, ou même 15, énormément de publications, de documentaires, de bandes dessinées. Enfin, je veux dire, vous avez le privilège, quand je dis vous, aujourd'hui, d'avoir accès à beaucoup plus de choses que, par exemple, pour moi, quand j'avais 20 ans. Sauf que, bon, moi, mes parents, j'avais accès, mais les personnes de ma génération, beaucoup moins. Et on l'a découvert par des rencontres. Moi, c'était, à l'enfance. Et donc, il y a une possibilité aujourd'hui de savoir, d'apprendre si on veut. Je le disais aussi mardi soir à des étudiantes de théâtre. Je leur disais, mais vous pouvez l'apprendre. Après, vous verrez vous-même ce qui vous intéresse. Et vous pourrez aller voir des personnes dont la vie résonne avec cette histoire. Par exemple, vous voulez faire quelque chose sur le 17 octobre 61, vous allez rencontrer peut-être à un moment donné des Algériens qui vous en parleront. Mais c'est à vous de faire ce travail. Vous ne pouvez pas constamment demander aux personnes racisées, tiens, enseigne-moi, éduque-moi. Ou aux jeunes femmes noires, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être noire? Il y a des livres aujourd'hui.
Il y aurait quasiment un devoir de connaître.
Oui, il y a une responsabilité qui fait que du coup, je pense que la conversation sera moins... Parce que ce n'est pas d'être coupable, la culpabilité n'a aucune importance. N'arrange rien, n'aide personne. Je suis là, j'ai jamais appris ça, je vais à l'université, tout d'un coup je suis confrontée par des jeunes femmes racisées qui me disent « Mais toi, tu fais quoi pour lutter contre le racisme ?» Et au lieu de tomber en larmes en me disant « Mon Dieu, mais on m'attaque, c'est pas gentil », eh bien je vais essayer de trouver, ou alors je demande, si je ne sais pas, quels sont les ouvrages que je pourrais lire pour comprendre, quels sont les films que je peux aller voir, tout l'attirail qu'il y a, quels sont les artistes que je peux suivre. Et à partir de là, je m'auto-éduque. Il y a un devoir, oui, d'auto-éducation, puisque ce n'est pas pris en charge par l'école aujourd'hui, ni par l'université entièrement. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que, qu'est-ce qu'on pense que les racisés ont fait? Mais comme ce n'était pas accessible, elles et ils ont forgé leurs propres outils de savoir. Elles et ils les ont produits, ils sont allés chercher. Donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et je pense, une des premières choses, c'est ces coproductions de nouveaux récits, de nouvelles représentations, de nouveaux... on est ensemble sur cette terre.
Et le collectif serait un des éléments précieux qui permettrait de rendre possible la reconnaissance qui, parfois, ne peut pas être conquis individuellement.
Oui, il faut absolument le travailler collectivement, puis ça sera difficile. La décolonisation, c'est difficile, hein. C'est pas simplement de se mettre à connaître, tiens, maintenant je connais cet épisode de l'histoire. C'est de voir à quel point nous-mêmes on a été formés. Mais même, par exemple, pour des racisés qui veulent... Le titre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que même... C'est pas parce que je suis racisée ou d'une classe sociale exploitée que je suis nécessairement décolonisée. C'est pas ça qui me décolonise, c'est le travail que je fais et que je réapprends à voir, parce que j'ai appris à voir de manière, comment dire, en couloir, que je commence à regarder comme ça, que j'ouvre les fenêtres, que j'apprends à réécouter, à me taire, à être silencieuse, à parfois me dire, à être secouée. Être secouée parfois, hein, très profondément secouée, très choquée par des choses. Et donc c'est un travail qui va être lent, qui va être difficile, mais qui déjà se fait beaucoup, qui sera aussi en non-mixité. Il y a des moments, ça, la non-mixité est déjà nécessaire et puis elle continuera à être nécessaire. Mais tout ça, ça va rendre plus fort.
Justement, dans votre parcours, vous avez eu cette ressource d'être... de venir d'une famille et de suivre ensuite durant votre parcours la trace, les sillons d'autres personnalités assez fortes, militantes, penseurs, politiques. Mais vous expliquez aussi que quand vous êtes allé voir d'autres femmes dans d'autres pays, ça n'a pas été simple aussi de comprendre si vous étiez légitime, entre guillemets. Alors c'est pas comme ça que vous l'expliquez, mais vous aviez le privilège de pouvoir repartir aussi, d'aller visiter des pays où je pense à l'URSS, un exemple, mais aussi au Salvador, d'aller rencontrer des femmes en lutte et d'avoir conscience que vous aviez la chance de pouvoir repartir, que c'était juste un voyage. Est-ce qu'il y a eu des moments de confrontation comme ça très durs et quand vous vous êtes senti à la limite de un peu remise en question aussi dans votre rôle?
Non, jamais. Il y a pas eu. C'était moi qui avais conscience de ça et qui donc était me sentais dans une position humble. Quand je suis au Chili sous la dictature de Pinochet à recueillir des témoignages de femmes ou d'épouses, de campagnes de disparus, mais je sais que moi je peux repartir, que je suis protégée par un passeport et que je peux me précipiter à l'ambassade de France. Je le sais. Mais c'est ma attitude que ça change. Parce que moi j'étais invitée par ces femmes au Salvador pendant la guerre civile. Je suis invitée, donc je n'arrive pas, moi je débarque pas, je suis pas dans une ONG pour aller sauver les femmes, etc. Je vais parce qu'on me l'a demandé et que parce que justement je suis un conduit, puisque justement je peux repartir. C'est par ce conduit là que ces femmes pensent que quelque chose pourra sortir et qu'elles ne peuvent pas en la situation le faire. Donc je me mets à ce service-là. Mais c'était cette conscience-là qui m'a toujours, pour moi, d'une part, fait prendre vraiment de la brutalité, de la cruauté dans laquelle on vivait, c'est-à-dire à laquelle je pouvais, moi, peut-être un peu échapper, mais qui était vraiment réelle. Et de prendre vraiment conscience de ça. Donc de ne pas du tout me prendre pour quelqu'un qui connaissait mieux les choses ou qui avait... Non, j'étais en train d'apprendre, j'étais vraiment, et d'être frappée par le courage. Je suis toujours, pour moi, le courage m'impressionne beaucoup. Quand j'étais au Salvador, mais le courage de ces femmes dans une guerre qui était d'une brutalité absolument violente, enfin, comme toutes les guerres, m'a énormément impressionnée et j'avais presque rien à dire, si je puis dire. J'avais rien à dire, j'avais qu'à écouter et à enregistrer. Et j'étais avec des Américaines, quand on a été jetés en prison au Salvador, c'était même en prison, et la situation était très dangereuse puisque vous pouviez disparaître, hein, même si vous étiez étrangère, hein, parce que puis après ils raconteraient n'importe quoi. L'année précédente où on était, ils avaient quand même les forces d'extrême droite avaient quand même assassiné 4 religieuses étrangères, enfin celui que je n'ai pas du tout. Vous prenez conscience justement de ce que les gens vivent de manière quotidienne. Et donc vous ne pouvez pas, avoir une position justement d'universel. Vous vous taisez un peu, quoi. C'est plutôt pour moi, non, jamais été remise en cause, c'est plutôt d'apprendre à me taire. D'apprendre à me taire. Et parfois, il faut être un peu... Et puis en même temps... Ne pas non plus tomber dans une espèce de truc gnangnan. Ah, les pauvres femmes, voilà, moi j'ai rien à dire, je suis privilégiée et tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Quel service je peux rendre?
Mm-hmm.
Il y a une situation d'effroi, j'ai l'impression aussi de se rendre compte de la gravité et la lourdeur de cette situation et de pourtant pouvoir avoir souhaité ou être poussé à écrire et à trouver une voie comme celle que vous développez pour continuer à donner finalement une direction, un tunnel de qui permettrait d'arriver à des possibles, des reconquêtes en détruisant des cachots intellectuels aussi. Oui, il y a un effroi. Comment on peut sortir de cet effroi, à mon avis, dont vous êtes constamment, auquel vous êtes constamment exposé, enfin, auquel tout ça ne vous a pas non plus sorti, laissé indemne dans une sphère...
Non. Mais même, mon enfance, puisque, comme vous le rappeliez, moi, mes parents, mon père était en prison, il a été battu à mort. Enfin, je veux dire, il y a des choses dont j'ai été témoin enfant. La police à la maison, tout ça, j'étais une enfant. J'étais vraiment une enfant, une petite fille. Et vous voyez à quel point, je veux dire, ce que vous comprenez, c'est à quel point ce sont des machines en face de vous. C'est pas des gens tendres. Et il faut avoir cette conscience. Ça ne veut pas dire que vous êtes paralysée. Ça veut dire que vous en êtes consciente. Vous n'allez pas vous méprendre. Il y a des moments, ces gens-là, tout ce que vous pourrez dire, ça n'y changera rien. Donc il faut apprendre aussi quels sont les outils qui vous permettront de survivre. Et du coup, l'histoire vous apprend beaucoup ça. Comment les gens ont parfois dissimulé des choses, menti, parce qu'il fallait survivre. Donc, c'est pas simplement dans ce romantisme parfois dans lequel, debout sur la barricade, je me lève, qui est quand même quelque chose aussi d'extrêmement important, hein, mais c'est aussi parfois les petits gestes dissimulés, clandestins, qui permettent de survivre. Moi, la littérature m'a beaucoup, beaucoup servi. Parce que dans la littérature ou dans le témoignage, hein, j'en lis beaucoup, je continue à en lire beaucoup, parce que là, quelque chose de ce que vous dites là, c'est-à-dire de comment on parle de la peur, de l'effroi,
comment on s'en sort, comment on contourne,
comment on le contourne, comment on se sort. Quand vous lisez les autobiographies d'esclaves qui ont fui, qui prenaient l'Underground Railroad aux États-Unis, tout ça, c'est à la fois l'incroyable courage et désir de liberté qui les tient à travers tout, quoi, les obstacles, et en même temps le fait qu'ils sont cachés dans des caves, dans le noir, parce que les chasseurs d'esclaves sont là. Enfin, c'est bon, je n'ai pas de lire. On peut penser, bah, évidemment, à Toni Morrison Beloved, qui est un monument, mais à des tas d'autres choses, même à des témoignages, même, ou des témoignages de colonisés, ou même aujourd'hui, les gens qui vous parlent de ce qui s'est passé en Irak, ou les Palestiniennes qui vous parlent de comment ça se passe. Ça vous donne, je pense que ça aide, pour ne pas se mettre à écrire de manière idéologique seulement. Vous voyez, c'est-à-dire d'approcher le plus possible de ce que l'oppression, c'est évidemment le vol de la terre et l'exploitation, mais c'est aussi ce que des personnes comme Fanon, ou même comme Césaire ont étudié, ou même, évidemment, je pense à Bell Hooks, ou Angela Davis ou d'autres, c'est-à-dire la blessure psychique, que ça vous atteint psychiquement. Ça ne vous atteint pas simplement physiquement ou matériellement. Que le système patriarcal et néolibéral est un système très cruel, qui peut être très brutal, et que les blessures que vous avez, les micro-agressions, il faut aussi, la décolonisation, c'est ça. C'est arriver aussi à les surmonter. C'est le système qui vous fait ça, mais c'est pas vous qui n'êtes pas comme il faut. C'est le système qui vous exige que vous soyez comme ça, et vous n'êtes. Et donc de comprendre ça vous libère déjà. Donc je pense qu'il faut traverser l'effroi, il faut traverser la peur, la traverser au sens de parce qu'elle vous rend consciente du fait qu'en face, c'est pas des anges. Mais pour autant, toute l'histoire humaine vous montre que toujours des personnes ont lutté et ont fait avancer les choses.
Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au terme de l'émission. Est-ce qu'on rajoute quelque chose, Françoise? Sur lequel il faudrait insister.
Non, je pense, ce qu'il faut insister, c'est que c'est une pensée en mouvement. Hein, il faut absolument une pratique en mouvement. Il faut ne pas avoir peur de reconnaître qu'on a eu tort, qu'on s'est peut-être trompé, puis qu'on recommence. L'important est d'être là. Et puis peut-être juste, puisqu'on parle du 8 mars et qu'on parle des femmes artistes, enfin on parle des arts et décoloniser les arts, c'est ce dimanche 10 mars, décoloniser les arts, la séance de son université sera autour des femmes artistes.
Ce sera où ?
À la Colonie Barré, entre 16 et 18 heures.
Eh ben, c'est très bien de nous en parler. J'ai hésité à allier à notre rencontre, celle avec Kader Attia, qui aura lieu sûrement plus tard. Et comment présenter ce lieu avec qui vous partagez des affinités
Kader est un ami depuis toujours. Il m'avait montré l'endroit avant même que ça se termine. Je trouve que c'était ce qui est incroyable, c'est le succès montre qu'on avait vraiment besoin d'un endroit à Paris, hein, puis certainement ailleurs, mais enfin en tout cas à Paris. Qu'il y ait une programmation d'une très grande qualité. C'est là que nous faisons notre université. Et c'est vraiment... On aimerait qu'il y en ait encore un autre endroit comme ça, ou qu'il soit plus grand, qu'il permette plus de choses. On voit bien que c'est là qu'on a pu faire notre université. Il n'y a pas d'autre endroit pour nous accueillir, comme ça, simplement. Et c'est vraiment... On voit qu'il faut qu'on construise nos espaces collectifs, c'est-à-dire qu'on construise nos autonomies. C'est-à-dire, on vit dans cette société. On va pas partir sur notre planète. Mais à l'intérieur de cette société, il faut construire nos endroits autonomes, nos espaces autonomes.
Et puis pour quelqu'un qui voyage autant que vous le faites, j'imagine que c'est plus que un constat qu'on doit intégrer.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci, Clintine. Merci de m'avoir reçue et merci.
C'était un moment très fort. Je pense que toutes les filles qui sont en studio ont bien retenu ce qu'il y avait à retenir. Donc merci Johanna pour la réalisation. Et on va finir par Hot Body Chords, un extrait de cette chorale féminine qui rejoint un peu cette idée que collectivement, on arrive à certaines choses.
Frauen werden Frauen, 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 Frauen
Sors à fuego.
C'était les péripéties mensuelles des pyromanes cellulaires. C'est les mecs là, les illusionnistes qui nous font oublier l'hiver. Alors on se retrouve le mois prochain, entouré des mets les plus exotiques du gratin. Retiens bien, Funtugs Radio Campus demande 93.9 à ton chauffeur de bus. Funtugs, 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 Funtugs.
Motherfucker, I'm a million, you heard?